Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine. Ce soir, l'homme augmenté sera-t-il plus vulnérable ? De tous les artistes de musical sur scène aujourd'hui, l'hypnotiseur est sans doute celui qui nous fascine le plus parce que son art résiste encore à la rationalité du public. Il n'est qu'à voir le succès de Mesmer lorsque la télévision lui ouvre ses portes. Son dernier exploit en date, il aurait réussi à endormir un téléspectateur par écran interposé. Mais le monde de l'hypnose est menacé par d'autres apprentis sorciers. À coups de pacemakers, de puces RFID, d'implants divers et variés, l'homme se machinise au point qu'il n'est pas incongru d'imaginer qu'un jour, des pirates informatiques pourront prendre le contrôle de nos gestes, voire de nos cerveaux, ou bien d'y injecter des virus. À moins qu'ils se contentent, mais est-ce vraiment moins inquiétant, de piller les données produites par ces extensions technologiques de nos propres corps ? Alors, l'homme augmenté sera-t-il plus vulnérable ? C'est notre sujet du jour et c'est une émission en partenariat avec le festival parisien Futur en scène. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Dufour. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes romancière, notamment auteure de science-fiction. Vous êtes par ailleurs ingénieure informatique. Alors parmi vos récits de science-fiction, je ne sais pas lequel vous souhaitez mettre en avant. Moi, j'avais retenu celui publié aux éditions Mnemos, c'était il y a une dizaine d'années. Le goût de l'immortalité, par exemple. C'est celui qui vous a valu le plus de prix, en tout cas.
Tout à fait. Il y a aussi Outrage et Rébellion, chez De Noël, qui, je trouve, colle bien à l'actualité.
L'actualité est la vôtre, c'était en début d'après-midi, une participation à Futur en scène, à ce festival, la conférence intitulée « L'intelligence artificielle va-t-elle transformer l'humanité ?» C'est pas exactement notre sujet de ce soir, mais enfin, on n'en est pas si loin que ça. Pour discuter avec vous, Éric Sadin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain et philosophe. Vous avez publié plusieurs essais aux éditions de L'Échappée. L'humanité augmentée, l'administration numérique du monde. C'était en 2013. La vie algorithmique, critique de la raison numérique. Puis chez le même éditeur, vous préparez un nouvel ouvrage. Mais nous aurons l'occasion d'en parler à la rentrée puisque sa sortie est prévue pour le mois d'octobre. Et puis nous attendons, il paraît qu'il est dans les couloirs, un troisième invité. C'est un petit peu la loi des séries, je dois dire, en ce moment, avec des retards, voire des absences d'invités prévues. Mais celui-là, me dit-on, sera bien là dans le courant de l'émission. On espère qu'il va arriver très vite. Alors j'évoquais d'ailleurs cette notion dans le titre d'homme augmenté. Peut-être qu'il faut la préciser parce que je ne sais pas si c'est une notion à laquelle vous adhérez l'un et l'autre. En tout cas, ce que vous y mettez, Catherine Dufour.
Alors l'homme augmenté peut prendre vraiment différentes allures. Par exemple, on peut imaginer la biogénétique de nous améliorer de partout. On peut imaginer les biotechniques de remplacer nos bras trop faibles par des bras bioniques, tel Super Gémie et l'homme qui valait 3 milliards. On peut imaginer qu'après tout, toutes ces histoires de chair nous ennuient prodigieusement et se téléporter notre esprit dans un support beaucoup plus technologique. Ça peut vraiment prendre des aspects extrêmement variés.
Éric Sadin.
Oui, alors je me suis interrogé ces derniers temps sur l'apparition de cette notion d'augmentation, qui est assez récente, qui a à peu près une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'avant on parlait de soigner, de réparer, et puis de la Silicon Valley est venue cette rhétorique de l'augmentation, qui postule, parce qu'il y a un esprit, il y a une sorte d'idéologie qui postule que, eh bien, nous ne sommes pas grand-chose, les humains, voire nous sommes des sortes de déchets, et que dans l'esprit un peu hyper vitaliste de la Silicon Valley, eh bien, l'humain constitue un facteur d'inertie. Or, désormais, comme dit Peter Thiel, le serial start-upper, un des serial start-upper de la Silicon Valley, eh bien, un miracle a lieu qui va repêcher la pauvre faillibilité humaine. Comme il dit dans son dernier ouvrage, en novlangue siliconienne, il dit, eh bien, c'est la technologie. Et donc, vous remarquerez que depuis une dizaine d'années, c'est très troublant de voir que de nombreuses dimensions des affaires humaines doivent être augmentées. Alors, en premier lieu, la réalité, c'est très étrange, comme si la réalité était pauvre en elle-même. Alors il y a des protocoles de réalité augmentée, notamment les Google Glass qui sont mis entre parenthèses. Il y a l'enseignement qui doit être augmenté, parce qu'évidemment les professeurs sont faillibles, ils font plein de bêtises, donc on va mettre dans les classes des protocoles interactifs.
Et puis il y a le corps humain.
Et puis il y a le corps humain, d'où vient la notion d'augmentation, avec comme horizon ce que je nomme la folie ou la furie transhumaniste, c'est-à-dire que l'homme en soi est un pauvre déchet, selon l'esprit idéologique de la Silicon Valley, et que l'état actuel de la technologie, par les prothèses ou par la magie de l'intelligence artificielle, va repêcher à tout instant et à terme les erreurs commises par la figure humaine.
Alors ça va nous permettre justement de nous interroger, de savoir si ces augmentations-là peuvent nous rendre moins faillibles ou au contraire davantage. Notre troisième invité nous a rejoint, il s'agit d'Olivier Ami. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes gynécologue obstétricien et informaticien, ce qui sont deux disciplines alors qui ne sont pas du tout antinomiques l'une avec l'autre, mais enfin on va dire que ce n'est pas si souvent qu'on a l'occasion d'avoir des personnes qui concilient ces deux disciplines. Vous êtes par ailleurs membre de l'Association française pour l'intelligence artificielle. Vous participerez demain, mais je donnerai le programme plus tard, également à ce festival Futur en scène. On s'interrogeait avec Catherine Dufour et Eric Sadin sur cette notion d'humain ou d'hommes augmentés. Qu'est-ce que vous y mettez, vous, derrière cette notion? Est-ce qu'on peut considérer que c'est parce qu'on trouve que l'être humain n'est peut-être pas un produit fini, ou en tout cas suffisamment infaillible, qu'on éprouve la nécessité aujourd'hui, non plus seulement de le réparer, mais de lui adjoindre de nouvelles possibilités pour le rendre plus fort?
Alors évidemment, bonsoir. Alors j'ai une autre caractéristique, c'est que j'ai une deuxième spécialité. Je suis aussi qualifié en radiologie, donc je m'occupe en intelligence artificielle de la reconnaissance de forme. Je travaille beaucoup là-dessus. Et sur ce qui est du sujet pour lequel vous m'avez invité, je pense que c'est pas parce que des technologies sont mises au point pour réparer le corps, c'est-à-dire apporter une correction à un handicap, qu'évidemment ça ne met pas à disposition des technologies et des capacités nouvelles pour le corps humain. Donc à l'évidence, il y a des dangers et puis surtout des conséquences à toutes ces technologies qui vont être disponibles.
D'autant qu'on est au-delà de la réparation, quand il y a par exemple des projets qui consisteraient, alors moi j'ai vu ça, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est un article qui était publié sur 20minutes.fr, je crois, il y a quelques jours de cela, sur l'homme augmenté, alors à quoi il ressemblera en 2050. Par exemple, il paraît qu'il y a des projets pour permettre à l'être humain de voir la nuit. Là, on n'est pas dans la réparation d'un handicap, on est vraiment dans l'idée de lui donner des super-pouvoirs.
Il est évident que aujourd'hui la technologie, elle permet d'apporter des sens que n'a pas le corps. C'est aujourd'hui une réalité. Les auteurs de science-fiction nous ont devancés depuis des décennies pour bien entendu anticiper les réflexions à ce sujet. Et bien aujourd'hui, il faudrait être fou pour dire que ces choses sont impossibles. Oui, on peut tout à fait acquérir des nouvelles facultés avec de la technologie. C'est tout à fait envisageable.
Ces nouvelles facultés qu'on peut acquérir et que la science-fiction nous permet aussi d'imaginer.
Alors, c'est pas du tout de la science-fiction, voir la nuit. Ouais. Je crois qu'il y a des, on va les appeler des chercheurs, des jeunes ou des fous furieux qui s'injectent réellement un certain nombre de substances dans l'œil pour mieux voir la nuit et qui, ma foi, y arrivent. Quelquefois un petit peu au péril de leur santé, mais du moins il y a des tests.
Ils voient vraiment la nuit ou ils ont l'impression qu'ils voient la nuit?
Non,
parce
après,
à cause de ces substances.
Voilà, non, ils s'injectent ça dans le globe oculaire et après il y a des tests très sérieux qui montrent qu'il y a une certaine efficacité. Alors la science-fiction, vous en parlez, la science-fiction a toujours essayé d'aider, on va dire, le lecteur moyen à apprécier, à accepter les évolutions technologiques, mais elles s'accélèrent tellement que l'auteur de science-fiction lui-même a drôlement du mal à rester dans la science-fiction. Moi, de plus en plus souvent, quand j'écris quelque chose de science-fiction, je m'aperçois que zut, ça a déjà été inventé avant-hier. Et le véritable, pour moi, enjeu, le véritable danger, c'est pas tellement d'arriver à voir la nuit, c'est de ne plus mourir, c'est de fracasser ce mur qui s'imposait à la fois aux riches et aux pauvres, qui est la finalité, la mortalité. Donc finalement, que faire disparaître la vieillesse, ce qui signifie à terme que les gens qui sont au pouvoir vont rester au pouvoir. Et là, posez-vous la question, est-ce que vous croyez vraiment que vous aimeriez être encore dirigé par Louis XIV? Parce que si on était encore dirigé par Louis XIV, permettez-moi de vous dire que le mariage pour tous, c'était pas gagné.
Bon, alors cela dit, ce défi de l'immortalité, on en est encore très loin, a priori. Ce qui nous a, nous, incité à faire cette émission ce soir, c'est peut-être des dangers qui sont un petit peu plus proches de nous, puisque si on considère que l'être humain, pour des questions de réparation ou pour des questions d'augmentation, on va dire, de ses facultés, se dote ou est doté d'un certain nombre d'appareillages, c'est d'ailleurs pas très nouveau, par exemple le pacemaker, ça existe déjà depuis quelques années. Et on s'est posé la question de savoir si à partir du moment où ces appareillages-là relèvent de l'électronique, ça nous rend aussi peut-être vulnérables à quoi? Oui, alors une prise de contrôle de l'extérieur, à des virus informatiques. Est-ce que ça, ce sont des questions qu'il faut se poser aujourd'hui parce que ce sont des dangers réels, ou bien est-ce qu'on en est encore loin pour vous, Eric Sadin?
Il est légitime de se les poser, mais en termes de sécurité informatique, il y a par exemple quatre domaines qui sont très sensibles et qui sont hyper sécurisés, le militaire, l'aéronautique, le nucléaire civil et le bancaire. Il n'y a pas beaucoup de hackage et ça fonctionne plutôt bien. Ce qui me semble...
Mais alors là, il manque le domaine de la santé, là, dans ce que vous...
Alors, on peut en parler, évidemment. Évidemment, grand chantier. Mais si le titre de l'émission, c'est « L'homme du futur est-il vulnérable ?», moi, je pense que on peut poser la question un peu autrement, si je peux me permettre.
Ah, vas-y.
C'est que je pense que c'est l'intégrité humaine à terme qui est vulnérable. Je m'explique. Car en ce moment, si je peux décrire très rapidement l'infrastructure technologique qui est à l'œuvre, hein, parce que l'avenir que nous évoquons à grands traits, là, il est en grande partie annoncé par les technologies numériques, hein, et pas seulement, mais prioritairement. Eh bien, il faut saisir qu'actuellement, nous sortons du temps, je ne vais pas parler du post-internet, c'est trop facile, c'est trop rapide, nous sortons du temps strict de l'internet au profit d'une extension de l'internet hors du strict cadre de l'écran, notamment rendu possible par l'extension en cours, actuellement en cours, des objets connectés, qui veut que des phénomènes du réel vont être saisis à la source, et notamment les manifestations corporelles, par les protocoles que nous évoquons, qui vont être portés par le corps. Et que cela va générer, hein, génère déjà, quantité de données de tous ordres, hein, qui témoignent de la vie humaine. Et qu'est-ce que ça rend possible? Ça rend possible, alors, une connaissance de plus en plus précise des comportements, et en retour, des services, car à tout protocole et à tout objet sont associés aujourd'hui des services, et donc une marchandisation à terme, ce que je nomme un terme intégral de la vie, mais aussi, et aussi, c'est pour ça que je parle d'intégrité humaine, à terme, une organisation algorithmique des existences où des systèmes guident l'action humaine et les humains rétroagissent. Alors vous allez me dire, mais de quoi parle-t-il? Eh bien, je parle par exemple de systèmes qui, dans le champ de l'entreprise, aujourd'hui avec des algorithmes et des critères dont on ne sait rien, qui déterminent le cadre de l'action humaine. Allez vous opposer à des algorithmes. Historiquement, il y avait la figure du contremaître contre laquelle on pouvait s'opposer, voire créer du conflit, et puis ça crée généralement, dans le meilleur des cas, ce qu'on appelle des acquis sociaux. Eh bien, quand aujourd'hui le cadre de l'action humaine, notamment dans le champ du travail, et on n'a pas le temps, enfin, on n'a pas encore parlé de la santé, mais dans le champ du travail, guide de plus en plus l'action humaine, parce que par le numérique, on parle beaucoup actuellement de destruction d'emplois. Je veux bien, il y a beaucoup d'incertitudes, de polémiques, enfin, de débats là-dessus, sur la véracité ou sur les chiffres, en tout cas. Ce qui moi, m'inquiète presque tout autant, même plus, c'est l'accompagnement, l'organisation algorithmique dans les entreprises, dans le champ du travail, par des algorithmes, par des systèmes dits intelligents. Et là, à terme, c'est l'intégrité et la dignité humaine qui sont appelés à connaître, à rencontrer une vulnérabilité progressive.
Olivier Ami, est-ce que vous partagez cette inquiétude? Ou bien, alors, est-ce que vous préférez-vous revenir finalement à celle que moi j'évoquais peut-être, qui était celle d'une, dans le domaine de la santé, d'une forme de prise de contrôle à distance d'appareillages qui sont ceux qui font, voilà, qui sont mis aujourd'hui sur les êtres humains, prise de contrôle à distance ou prise de contrôle aussi des informations, ce qui rejoint d'ailleurs peut-être là plutôt les préoccupations d'Eric Sadin.
Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Les objets connectés, d'abord, c'est connecté à quoi dans le corps? D'abord, il y a différents organes qui peuvent être concernés. Et il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, exactement comme en informatique, notamment le cerveau. On sait qu'il y a des zones corticales du cerveau qui peuvent être dédiées à certaines actions dont on connaît le rôle. On pourrait être amené, on sait aujourd'hui les stimuler de manière externe. On sait aussi aujourd'hui avoir des appareils qui permettent d'augmenter la productivité des neurones localement. On a de l'imagerie qui permet de cartographier tout cela. On a bien sûr le cœur, vous en avez parlé, il y a les pacemakers, mais il y a d'autres objets connectés. Il y a les muscles aussi qui peuvent être réparés avec des exosquelettes par exemple pour redonner une mobilité. Et donc ça pose la question de l'action qui pourrait être dirigée s'il y avait un piratage de ces outils informatiques qui sont connectés au corps humain. Alors je crois que là, il y a une grande responsabilité de la part des scientifiques, notamment qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, dans la R&D. Je pense que c'est totalement au cœur des préoccupations, que ce soit pour une start-up d'ailleurs ou aussi pour les universitaires, que quand il y a une nouvelle technologie qui est mise au point, on soit bien attentif à ce que, évidemment, si cette technologie peut arrêter ou redémarrer un cœur, ça pose la question de sa protection.
Et du coup, comment est-ce qu'elle peut s'exercer cette responsabilité? Est-ce que l'idée, c'est de faire en sorte que les possibilités, par exemple, de piratage soient réduites au maximum? Ou bien est-ce que ça doit se faire dans l'information, par exemple, du public? Quand quelqu'un va être, par exemple, doté d'un pacemaker, qu'il sache qu'il y a peut-être de bonnes pratiques pour éviter ce genre de risque.
L'information, l'éducation sont capitales. Je pense que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut prendre le problème, parce que ça va devenir une vraie responsabilité citoyenne et individuelle que de faire face à toutes ces technologies qui nous entourent. On a été un petit peu dépassé par l'avènement de l'ère numérique et beaucoup de gens aujourd'hui ne peuvent plus faire marche arrière. Je prends l'exemple de cette femme qui a voulu à un moment s'extraire de la vie numérique et qui a rendu jusqu'à sa carte bleue et qui a fini par être convoquée par les services secrets pour vérifier qu'elle ne préparait pas un attentat. Donc il est évident qu'aujourd'hui, la question pour les enfants, par exemple, qui aujourd'hui, dès l'âge de 13 ans, ouvrent leur compte Facebook, etc. Il faut distinguer, je pense, dans ce qui nous attend, les systèmes qui sont des outils d'aide à la décision et les systèmes autonomes. Parce que dans le cadre de la responsabilité, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose. Quand vous avez un système dit intelligent, entre guillemets, mais c'est un bien grand mot dans lequel on met beaucoup de choses, qui prend une décision, qui a des conséquences, la question de la responsabilité, est-ce que c'est le propriétaire, est-ce que c'est le fabricant, est-ce que c'est l'ingénieur qui l'a mis au point? Il y a des questionnements éthiques derrière. Et puis, aujourd'hui, il y a quand même tout un pan de la sécurité informatique qui n'est pas abordé. Jusqu'à une période très récente, la sécurité en informatique, ça n'existait pas. Il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir un coffre-fort virtuel dans son garage, parce qu'il suffit d'un pied de biche pour accéder au disque dur. Aujourd'hui, il y a les blockchains, il y a le cloud, il y a une capacité de crypter et d'éclater les données pour qu'elles ne soient pas accessibles, qu'elles ne soient pas toutes au même endroit, ce qui change un petit peu la donne de la sécurité et en tout cas des moyens à mettre en œuvre pour la rompre, et notamment pour les données de santé, puisque c'est ce qui nous intéresse. Tous les objets connectés renseignent des systèmes d'information. Et donc, j'ai vu que Marisol Touraine avait lancé récemment une consultation sur la vision des utilisateurs de l'utilisation de ces données de santé, ce qui est une excellente nouvelle parce que au moins ça recentre l'utilisateur au cœur du débat. Et tout l'enjeu du big data, c'est de savoir quelles seront les décisions sociétales qui seront prises à ce sujet.
Catherine Dufour, sur ces questions de sécurité, on a l'impression que finalement que quand il y a des innovations technologiques, alors celles qui sont en train de se passer sont très importantes. La sécurité finalement est une préoccupation qui n'intervient qu'après. Est-ce que ça, vous le constatez aussi, vous, dans les réflexions que vous menez justement autour de ces questions?
Non, elle est au cœur du sujet. Mais pour revenir sur ce que disait mon ami Eric, il faut savoir que le fait que des agents intelligents interviennent déjà dans des décisions qui touchent très près notre vie quotidienne, c'est déjà le cas. Chaque fois que vous demandez un crédit bancaire, votre banque vous dit oui ou non, elle n'a pas à se justifier. D'ailleurs, elle ne le pourrait pas, parce que c'est pas des humains qui décident, c'est un agent intelligent nommé Scoring, qui fonctionne sur l'accumulation de données et qui vous dit oui ou non sans qu'aucun être humain ne puisse réellement comprendre le pourquoi de cette raison. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Les agents intelligents interviennent déjà énormément dans ce genre de décisions qui nous touchent de près au quotidien.
Et plus ces agents intelligents, quoi, plus ces agents intelligents ont accès à nos données personnelles, qui peuvent être, par exemple, demain, je dis demain, c'est déjà aujourd'hui des données de santé, et plus justement, on risque d'être confronté dans notre vie quotidienne à ce genre de décisions.
Voilà, elles ont accès à nos données personnelles et surtout, elles nous traitent comme des statistiques. Voilà, si vous êtes une personne qui vient de fraîchement divorcer, qui a deux enfants à charge et qui a besoin d'une voiture pour aller à son travail, on vous prêtera pas d'argent pour cette voiture parce que en scoring vous ressortirez en rouge et il n'y a pas d'appel. Il y a donc pour revenir sur ce dont vous parliez, c'est-à-dire le corps humain, je crois que là vous voulez parler de Marc Gasson qui est un travailleur, chercheur à l'université de Reading et qui a sous la peau une puce RFID. Avec laquelle il commande sa domotique et son téléphone portable et il s'est amusé à y introduire un virus pour être le premier homme porteur d'un virus informatique. Alors là, ça reste anecdotique, mais une fois qu'on saura de plus en plus se constituer d'éléments technologiques, on aura deux dangers. D'abord, le hacking. Et ça, c'est une réelle possibilité, mais il y a surtout le big data, c'est-à-dire que toutes les données, toutes les décisions, finalement, ne seront pas prises par les citoyens, mais par ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire tout simplement le secteur privé, commercial et financier.
Et bien au-delà des GAFA, Catherine.
Oui, bien au-delà des GAFA. Et la troisième chose que donc, je voulais dire pour reboucler sur la responsabilité, c'est actuellement, il y a des questions qui se posent sur les fameuses voitures sans chauffeur de Tesla. On vous vend cette voiture sans chauffeur, vous pouvez donc vaquer à vos occupations dans votre voiture pendant que votre voiture conduit. Alors maintenant, il y a différents scénarios. Vous arrivez, il y a trois petits-enfants aveugles qui traversent. Est-ce que vous expédiez votre voiture dans le caillou d'à côté, auquel cas vous allez mourir sur le coup, ou est-ce que vous les écrasez? Et si jamais la voiture va prendre une décision, quelle est la décision? Et quand les parents des trois petits-enfants aveugles iront au tribunal, qui est-ce qu'on va accuser? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le programmeur? Est-ce que c'est le vendeur? Ça, c'est vraiment au cœur de la recherche actuelle.
Ça, c'est un problème qui se pose si tant est que le conducteur ne puisse pas reprendre le contrôle de ce véhicule et que ce contrôle-là soit totalement dédié à la machine. Il y a d'ailleurs eu un article il y a quelques jours dans Le Monde qui évoquait un petit peu cette question, qui s'intitulait « Une intelligence artificielle est-elle capable d'empêcher un humain de la désactiver ?» Ça, c'est vrai qu'on est au cœur finalement
de le fameux bouton
rouge de Google. On est au cœur de cette réflexion, Eric Sadin.
Évidemment. Et tout à l'heure, vous parliez de piratage de données de santé. Hein. Moi, je crois pas beaucoup en cela. En revanche...
Pourquoi vous y croyez pas?
Parce que
vous pensez que personne n'a intérêt à le faire?
Pas du tout.
Ou parce que techniquement, ça n'est pas possible?
C'est pas que ça n'est pas possible, c'est qu'il y a des procédures de sécurisation aujourd'hui qui sont extrêmement sophistiquées. On a parlé tout à l'heure de la banque, de l'industrie, du nucléaire civil. Il y a d'autres champs. Il y a peu d'incidents. En revanche... Si on parle de santé, de piratage et de santé, il y a un piratage de la santé par le régime privé. Alors c'est cela qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que si on parle, tout à l'heure je disais des objets, notamment des objets connectés, sont associés à des services. Vous savez, historiquement, le champ de la médecine était séparé en champs distincts. Il y avait, en première sphère, une première strate, il y avait les médecins, la compétence des médecins et des hôpitaux. Hein. En deuxième sphère, il y avait les fabricants de substances pharmaceutiques hein, et des pharmacies. Et puis une troisième sphère, un peu plus éloignée, de développement de fabricants de matériel paramédical ou médical, et puis les entreprises de bien-être. Et bien aujourd'hui, par les objets connectés, donc qui sont collés au corps, hein, et bien qu'est-ce qu'il se passe? Pour reprendre le terme, il y a un piratage de ces données par du régime privé, qui en retour, objet connecté...
Piratage, pardonnez-moi Eric Sadam, mais ce sont des données qu'on accepte peut-être a priori, alors vous allez me dire sans le savoir totalement, mais de communiquer.
Absolument, non, mais piratage c'est une image, c'est-à-dire il y a récolte de ces données par le régime privé, et à chaque objet connecté aujourd'hui est adossé une application, et que font les applications? C'est ce que je disais tout à l'heure, que font les applications? Eh bien, elles analysent les cartographies physiologiques de chaque individu, et en retour, elles vous, en fonction de votre poids, de vos courbes évolutives d'analyse sanguine ou d'autres choses, eh bien en retour, vous suggère des compléments alimentaires par des entreprises dont on ne sait rien concernant la compétence médicale. Là, il y a des enjeux, excusez-moi de me répéter, de me citer moi-même, mais que j'ai souvent signalé ces derniers temps, qui me semblent capitaux, parce que cela a lieu actuellement par ce qui est nommé l'innovation numérique, hein, c'est-à-dire qui est célébré notamment dans Futur en scène, hein, c'est la nouvelle idole de notre temps, l'innovation numérique, sans que nous saisissions aujourd'hui, notamment avec l'assistanat de l'action humaine par l'intelligence artificielle, sans que nous saisissions, la société ne saisisse actuellement, qu'au-delà d'un modèle industriel, qui est un nouveau modèle économique, l'économie de la donnée et des plateformes, c'est un modèle civilisationnel qui s'instaure actuellement, qui est fondé à terme sur la pression continue sur la décision humaine, notamment ce que je nomme les notifications, la marchandisation à terme intégrale de la vie, jusqu'au dessaisissement de l'action humaine. On a parlé du cas d'entreprise. Alors on voit bien le modèle civilisationnel qui est en jeu là. Or, ça ne fait pas l'objet, et merci à vous de faire cette émission ce soir, ça ne fait pas l'objet, à mon sens, de suffisamment de débats ni de controverses publiques, parce qu'il y a consensus entre le monde numérico-industriel et les démocraties sociales libérales, et à tort qu'au nom de l'emploi et de la croissance économique, cette innovation numérique qui va induire des incidences civilisationnelles extrêmement problématiques, eh bien, au nom de la croissance et de l'emploi, on la soutient notamment par des fonds publics confèrent la French Tech et toutes les infrastructures dans le monde qui s'inspirent de la Silicon Valley, ce que je nomme la siliconisation du monde.
Et ce sera le titre d'ailleurs de votre prochain ouvrage, Eric Sada. Olivier Ami et Catherine Dufour, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement c'est moins du côté de pirates informatiques qu'il faut craindre une vulnérabilité de cette augmentée, mais davantage du côté justement de ces groupes numérico-industriels comme les nomme Eric Sadin, qui ont des intérêts économiques à contrôler des informations, mais qu'il faut peut-être que finalement notre argument de départ pour organiser cette émission en se disant, ben voilà, puisqu'on est équipé, il peut très bien y avoir des pirates qui vont vouloir nous contrôler à distance et puis vouloir nous faire des choses qu'on ne veut pas faire, c'est pas ça le risque premier, Olivier Ami.
Alors, je suis assez d'accord sur le fait que il y a évidemment en ce moment une révolution qui est en marche, qui a même déjà bien avancé sans effectivement avoir été contrôlé par qui que ce soit, si ce n'est par les intérêts économiques pour le moment. Je suis assez d'accord avec Eric Sadin, il y a besoin de débat, c'est une urgence absolue. Et de controverses publiques, il n'y en a pas suffisamment. Je pense qu'il a tout à fait raison d'insister sur ce point. Je pense qu'il met le paquet là, mais il a pas tort de remuer un petit peu tout ça. Je pense que
ça m'empêche de dormir parfois, vous savez.
Ben alors, pour ce qui est de la santé, la France a eu une position qui était tout à fait révélatrice et même innovante en la matière, puisque en France, les données de santé ne peuvent être hébergées que s'il y a un médecin qui les garantit. En gros, quand vous allez chez le médecin, évidemment, vous donnez vos informations à un médecin que vous choisissez. Et ce médecin, si vous changez de médecin, est censé transmettre votre dossier, que ce soit sur le papier ou sur le plan numérique. Finalement, c'est assez sain que ça reste comme cela. Je pense que le fait de positionner les médecins comme garants, c'est une sécurité importante. Il n'y a donc pas d'hébergement de données de santé dans les entreprises françaises s'il n'y a pas de médecin pour le garantir au sein de l'entreprise. Et ça, je pense qu'il faut vraiment se battre pour que ça reste.
Vous parlez de données de santé, là. Il y a les données physiologiques, c'est autre chose.
Ah oui, tout à fait. Mais Eric Sadin a souligné tout à l'heure le fait que les objets connectés, c'est des données qui peuvent concerner la santé qui sont transmises.
Absolument.
Qu'elles soient de manière transmises anonymement ou non,
exactement,
d'ailleurs. Et c'est pas parce qu'on a signé un disclaimer en s'inscrivant sur un site internet pour faire un régime que on a tout à fait conscience que nos données vont être trafiquées, revendues, etc. Et la raison.
Un disclaimer, pardonnez-moi, qu'est-ce que c'est ?
C'est en fait simplement l'information qui est donnée au départ quand vous inscrivez sur un site qui vous informe de ce que vont devenir vos données, ce que habituellement vous prenez.
En général, on ne lit pas.
Voilà. Et vous passez très très vite à suivant, terminé.
Voilà.
Et ça, c'est une autre question juridique, parce qu'évidemment, à moins d'être un professionnel, il y a des gens qui le lisent. Hein, l'avantage du débat public et de la contradiction, c'est de pouvoir justement avoir accès. Et c'est pour ça que les GAFA et tous les autres, d'ailleurs, réactualisent régulièrement leur politique. Mais en intelligence artificielle, comme dans le big data, tout est question de statistiques. Ça, c'est évident que les logiciels qui sous-tendent l'utilisation des objets connectés, des puces RFID, etc., qui sont vraiment en charge de produire des effets à partir de ces informations sont beaucoup plus importants que les objets connectés eux-mêmes, quasiment. Et donc l'Association française d'intelligence artificielle suit ces débats de manière assidue. Pour ce qui est de la voiture sans chauffeur, il est à peu près évident, par exemple, que la logique informatique exclut qu'il y ait une reprise de contrôle par l'homme, ce qui est assez terrifiant parce qu'effectivement...
Il y a eu des tentatives récemment.
Oui, dans un premier temps, on va se retrouver avec des accidents totalement ubuesques. Le pari est fait que statistiquement, à force de retour d'expérience et de contraintes, ces problèmes diminueraient de manière beaucoup plus importante que s'ils étaient gérés par l'humain. Dans l'intervalle, il y aura des accidents plus sordides les uns que les autres. Et ça pose des vrais questionnements, c'est-à-dire que ces technologies, elles ont un début et que il y a tout un processus de maturation. Et dans ce fameux modèle civilisationnel dont parlait Eric Sadin, il va y avoir une étape un peu désagréable avec une pression de toutes ces notifications qui nous arrivent, qu'on n'a pas demandé et qui anticipent des choses de notre quotidien. Et ça, effectivement, ça va faire prendre conscience aux gens qu'il y a une nécessité de débat urgent.
Bon, mais on pourrait presque dire que c'est aussi le propre de toutes ces grandes inventions. Je sais pas, mais je pense à l'aéronautique. L'accidentologie en aéronautique, elle était beaucoup plus importante au début, justement, des pionniers de l'aviation qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, c'est finalement le propre aussi des innovations humaines, non, Catherine Dufour ?
Oui, tout à fait. Vous avez raison. Moi, ce que je voulais dire, puisque disent mes deux compères, c'est qu'effectivement, le progrès technologique faramineux qu'on est en train de vivre n'est absolument pas accompagné par un appareillage politique, philosophique suffisant. Voilà, je vais citer de mémoire Camus qui disait, il y a déjà un petit bout de temps, qu'il est grand temps de mettre de la conscience dans notre science, sinon on va droit au suicide collectif. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement le privé. Hein, toutes les données de votre carte grise, elles sont vendues par l'État à des brokers sans données privées qui vendent, achètent et revendent au même titre que le pétrole ou l'or. Et alors, pour ceux que ça intéresse, la première chose à débrancher, si jamais vous voulez pas être vendu comme de la poussière de données privées, c'est tout simplement de renoncer à vos cartes de fidélité. C'est pour le moment un des vecteurs principaux.
Catherine Dufour, vous évoquiez justement cette nécessité d'une science, on va dire, avec conscience. Enfin, est-ce que ça veut dire que pour vous, les questions éthiques, elles ne sont pas suffisamment posées aujourd'hui par les scientifiques ? Ou bien est-ce que c'est vraiment, une problématique beaucoup plus large et qu'il faut aussi que ça soit du côté...
C'est une problématique beaucoup plus large, mais le beaucoup plus large vient toujours de l'humain. Et tout simplement, je crois que les jeunes ingénieurs actuels devraient avoir la moitié de cours d'ingénierie et l'autre moitié de cours de sociologie, de politique et de philosophie pour se rendre compte qu'ils ont un impact réel sur la vie quotidienne et l'avenir de l'humanité.
Est-ce qu'on vous sollicite dans les écoles d'ingénieurs, Eric Sadin ?
Alors, j'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire, Catherine. Je pense à l'école 42, j'ai rencontré les responsables l'année dernière, qui forment des programmeurs, donc des ingénieurs, hein, et qui tapent, excusez-moi du terme, c'est un peu familier, nous sommes vendredi en fin d'après-midi, il fait chaud, c'est l'ouverture de l'euro ce soir, qui tapent comme des brutes du code. Hein, qui n'ont... Alors, j'aurais demandé, est-ce que vous avez des bibliothèques ? Rien, pas un livre, hein, quand même, la maturation des livres, de la réflexion... Alors, il est temps, dans mon prochain ouvrage, je vous l'ai dit hors micro, Hervé, je travaille sur la notion de responsabilité d'ingénieur, je pense que c'est une dimension qui devrait être apprise à l'école, et je voulais juste dire, puisque nous avons parlé de médecine, hein, et de guidage de l'action humaine, savez-vous que le système ultra perfectionné d'intelligence artificielle développé par Watson, destiné à plusieurs champs de la vie humaine, et notamment la médecine, savez-vous que il est devenu, notamment entre autre chose, c'est un dispositif très complexe. Là, on est en plein dans les big data, la connexion des données de tous ordres, évolutive, d'évaluation des effets secondaires des médicaments, etc. Mais qui est devenu maintenant un organe donc de diagnostic, hein, qui est validé, dont le diagnostic est tenu comme ayant une valeur, depuis très récemment, une valeur supérieure par des compagnies d'assurance aux États-Unis. Hein. Donc c'est dire à quel point ce que nous disions en préambule, que l'humain est considéré comme faillible avec ses doutes, ses hésitations, et qu'il y a des systèmes, et l'intelligence artificielle, la courbe actuelle de l'intelligence artificielle, c'est de guider pour le meilleur des mondes, vous savez, to make the world a better place. Hein, c'est ces gens-là, l'esprit de la Silicon Valley, à eux seuls, et à partir de leur pulsion de toute puissance, veulent organiser pour notre bien le cours de l'action humaine. Hein. Et donc, Watson, son expertise, et actuellement, c'est dire l'état de nos sociétés, des compagnies assurantes qui accordent plus de crédit et qui en plus de surcroît. Vous savez, Nietzsche posait la question qui parle ? Quand je parle, qui parle ? Est-ce que c'est la société ? C'est mes parents ? Eh bien, donne des prescriptions. C'est un organe maintenant de prescription. Alors je pose la question à propos du piratage du régime privé. Quand il y a une prescription, alors qu'il y a l'invisibilité, ce que je nomme l'invisibilité du computationnel, c'est-à-dire personne ne voit, c'est pas de la théorie du complot, c'est structurel, c'est technique, personne ne voit la façon dont c'est structuré. Quand il y a un système Watson qui va vous donner une prescription, Hervé Gardette, parce que vous n'avez pas l'air très bien ce soir, vous êtes un peu pâlot, je pose la question, qui parle ? Qui parle ? D'où vient la prescription ? Et là, il vient immédiatement la notion qui est devenue très à la mode depuis une dizaine d'années avec le numérique, c'est celle d'enchère. C'est-à-dire, voit-on avec ces systèmes à quel point il y a une pénétration du privé, notamment dans le champ de la médecine ?
Je rassure mes parents qui m'écoutent, je vais très bien.
Non, vous allez très bien.
Olivier Ami, et ce sera la conclusion parce que le temps passe très vite quand on parle de ces questions. On est presque au terme de cette émission.
Oui, alors je pense que pour ce qui est de l'appareillage politique, il y a un mouvement qui a lieu. La question est de savoir dans quelle direction, parce que pour l'instant il est assez embryonnaire, effectivement, plus que l'appareillage philosophique, là dans le contexte, je parlerai d'appareillage éthique. Et là, je voudrais souligner une chose importante.
Philosophique, politique et éthique.
Oui, et je pense que ce troisième volet de l'éthique n'est pas à sous-estimer parce que je pense qu'il est envisageable d'intégrer à chaque étape du développement des processus, effectivement, des contraintes qui soient des contraintes éthiques et, on va dire, humanistes, si vous me permettez de conserver ce terme. Je pense que il y a un intérêt et une importance capitale à la laïcité. Vous savez, le pape est tout à fait dans son rôle quand il dit que les Français...
Qu'est-ce que la laïcité vient faire là-dedans ?
Eh bien, je pense...
Pardonnez-moi, mais alors
c'est... Eh bien, je pense que l'éthique doit rester laïque dans ce qui est ce débat sociétal où les scientifiques ont des idées. Je pense que c'est sûr que si vous mettez dans une même pièce un prêtre, un rabbin et un imam, ils vont pas forcément vous donner une définition claire de leur... Enfin, en tout cas, utile pour la société. Bien que leur éclairage soit capital, je pense qu'il faut... Je préfère que les gens soient tirés au sort dans les comités d'éthique. Et d'ailleurs, c'est une révolution importante qui a lieu au niveau européen et qui se transmet en France, parce que évidemment, tout ce qui est au niveau recherche et développement nécessite d'être encadré de manière très stricte au niveau éthique.
Voilà, comme chaque fin de semaine, nous retrouvons les pages débat de l'Obs avec ce vendredi Sarah Daniel. Bonjour Sarah Daniel.
Bonjour.
Daesh est-il l'enfant de l'Arabie Saoudite ? C'est le titre d'un entretien que vous signez et pour lequel vous avez rencontré deux chercheurs, Stéphane Lacroix et Nabil Mouline.
Voilà, oui, donc dans l'Obs cette semaine, on publie cet entretien sur une question assez polémique. Daesh est-il l'enfant de l'Arabie Saoudite ? Vous vous souvenez peut-être de la chronique signée par Kamel Daoud dans le New York Times au titre aussi provocateur « L'Arabie Saoudite est-elle un Daesh qui a réussi ?» Et donc en interrogeant deux experts de l'histoire de l'Arabie Saoudite, Stéphane Lacroix et Nabil Mouline, nous avons essayé de répondre à cette question. Quelle responsabilité porte la monarchie wahhabite dans la fabrication du djihadisme ? Alors en effet, après chaque attentat meurtrier perpétré par Daesh ou Al-Qaïda, la responsabilité de l'Arabie Saoudite dans l'émergence du djihadisme est invoquée. Et on se pose aussi cette question en France. La wahhabisation des mosquées fait-elle le lit des attentats ? Le salafisme est-il quiétiste ou guerrier ? Cette relation de cause à effet est évidemment catastrophique pour l'image du royaume. Mais à y regarder vraiment quel est le degré de cette responsabilité, peut-on dire que l'Arabie Saoudite est le moule de Daesh ? Nabil Mouline, chargé de recherche au CNRS, nous explique que contrairement à ce qu'on a tendance à dire, le djihadisme est avant tout l'un des principaux héritiers des idées des pères fondateurs des frères musulmans. l'un des objectifs de cette confrérie dès son émergence en 1928 est la réunification politique et religieuse de l'Oumma. Pour ce faire, Hassan el-Banna, son fondateur, préconise la réislamisation des sociétés, la prise du pouvoir dans l'espoir de fonder un État islamique. Cette feuille de route s'impose alors très rapidement comme le socle du djihadisme contemporain. Mais pourtant, ce courant radical reste marginal car il manque de moyens et surtout d'une tradition religieuse bien ancrée. C'est alors qu'intervient le rôle crucial de l'Arabie saoudite, riche pays pétrolier. Donc, dès son apparition au XVIIIe siècle, l'entité saoudienne se pose comme la dépositaire de la seule vraie religion, le wahhabisme, doctrine messianiste et rigoriste. Et puis, au XXe siècle, en raison des bouleversements géopolitiques qui s'opèrent et des pétrodollars, l'Arabie saoudite dispose enfin de moyens pour réaliser ses ambitions politico-religieuses. Donc, pour ce faire, il finance des individus, des mouvements et des partis qui servent ses desseins spirituels et temporels. Et c'est justement en Afghanistan que s'opère la plus grande opération d'hybridation entre le wahhabisme et les idées des frères musulmans, à l'origine du djihadisme contemporain. Le tout, évidemment, sous l'œil bienveillant de Riyad et de Washington.
Voilà, c'est donc à lire dans les pages débat de l'Obs. Merci beaucoup Sarah Daniel et merci à nos trois invités, Olivier Ami, Eric Sadin, Catherine Dufour. Eric Sadin m'a dit, je voudrais juste dire une phrase de trois mots, mais comme je ne le crois pas et qu'on est vraiment à la bourre, je ne vous redonne pas la parole. Je rappelle votre dernier livre, La vie algorithmique, aux éditions de l'Échappée. Olivier Ami, vous serez demain au festival Futur en scène à 11h, c'est à la Gaîté Lyrique à Paris, pour une conférence intitulée Sommes-nous l'ultime objet connecté. Catherine Dufour, je vous laisse dire ce que vous voulez, votre dernier livre, une
phrase. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'ouvrage Surveillance qui vient de sortir chez Public.net.
Et qui est signé ?
Ouvrage collectif.
Ouvrage collectif. Merci beaucoup Catherine Dufour, merci à toute l'équipe du Grain.